RMC, le face-à-face.
Le face-à-face avec dans ce studio Jonathan Boucher-Peterson, journaliste à Libération, bonjour. Et vous, Alexandre Devecchio, journaliste au Figaro, en charge du Figaro Vox. Cette question, vous avez visiblement eu la gentillesse de regarder hier François de Rugy. François de Rugy qui était mon invité pour une émission exceptionnelle hier soir sur BFM TV, une heure d'entretien. Il dit avoir été victime d'une cabale et d'un lynchage. Est-ce vrai, Alexandre ?
Les mots sont forts. Je pense que la situation est complexe. D'abord, on est dans un contexte budgétaire difficile où on nous explique qu'il faut faire preuve de rigueur. Donc il n'y a pas de raison qu'il y ait deux poids deux mesures, que les citoyens doivent se serrer la ceinture et pas les élus. C'est pour ça, je crois que ce qu'a fait François de Rugy sur le plan moral, sur le plan légal, il y a peut-être rien, mais sur le plan moral, a choqué les Français. Ensuite, je pense qu'il n'avait pas la dimension politique nécessaire pour résister à ce genre d'affaires. Ça aurait été un grand serviteur de l'État, quelqu'un qui a posé son nom sur une loi. Peut-être que les Français auraient mieux compris, mais de Rugy a fait une bonne carrière d'apparatchik qui l'a conduit jusqu'à la place de quatrième homme de l'État. Mais est-ce que pour autant les Français étaient suffisamment attachés à lui, à son bilan, pour le sauver en quelque sorte ?
C'est sa fragilité, au fond, c'est sa faiblesse politique.
Il a payé sa faiblesse politique.
Est-ce qu'il la paiera encore ? Et est-ce qu'il est victime, Jonathan ?
Non, mais que lui, il ait le sentiment d'avoir vécu des salves assez violentes et répétitives qui ont mêlé des choses qui étaient assez différentes, sûrement. Après, encore une fois, il y a des raisons d'être exigeant, et François Rugy l'a été pendant très longtemps, quand on parle d'argent public. Effectivement, l'affaire en tant que telle, c'est pas Al Capone, on n'est pas dans une affaire absolument délirante, mais on est dans vraiment ce que les Français détestent de la monarchie républicaine. Cette idée qu'ils vivent pas comme nous, cette idée que, dans les enquêtes du Cevipof chaque année, 83% des Français considèrent que l'intérêt personnel des politiques est leur principale boussole. Ça doit questionner quand Emmanuel Macron fait sa campagne sur la question de l'exemplarité. Forcément, le retour de bâton, c'est une exigence supplémentaire. C'est une exigence maximale. C'est pas la démocratie paparazzi, c'est pas s'intéresser à la vie privée de François de Rugy. Ce qu'il fait pour la Saint-Valentin, s'il l'avait fait, comme vous le demandez hier, dans un restaurant, ça le regarde et chacun est libre après d'avoir un avis. Là, on parle d'un président de l'Assemblée nationale, on parle d'un député, on parle de quelqu'un qui fonctionne avec notre argent. Donc c'est tout à fait légitime. Après, que lui ait le sentiment d'avoir été pris au piège et de pas avoir pu se défendre, c'est une certitude. Après, je suis assez d'accord sur le fait que son faible poids politique, ou en tout cas l'absence de, il y a pas de, je connais même pas le mot, de, on dit les Sarkozy, on dit les Hollandais, comme en plus il a rompu avec son ancienne famille politique, c'est un homme assez seul, même si on a compris qu'il avait déjeuné avec le Premier ministre.
Alors,
d'humanité.
On sent bien d'ailleurs, même s'il ne le dit pas tel quel, parce qu'évidemment il est prudent, mais on sent bien que il aimerait revenir, qu'il a le sentiment que maintenant qu'il a porté sa défense,
ça me paraît incroyable, c'est l'aspect le plus buesque de l'intervention. Je crois il est plus en situation, qu'il le veuille ou non, d'être ministre, parce qu'il y a eu le poids des images, il y a eu le poids de cette affaire, et ça entraverait son action, et c'est pour ça qu'il a dû démissionner. Il a bien fait. Moi, je pense que cette affaire pose quand même la question de la transparence absolue. Moi, à titre personnel, j'y suis pas favorable, mais on est dans le cas typique de l'arroseur arrosé ou du guillotineur guillotiné. Le péché originel quand même du macronisme, ça a été l'affaire François Fillon, finalement. Et le fait de prôner une espèce de moralisation de la vie politique, c'était la première loi.
Le fait de dire on sera mieux que les précédents.
Donc il y a une espèce de tartufferie. Je pense que la leçon qu'il devrait en tirer, c'est justement qu'il ne faut jamais faire la morale et donner de leçons en politique.
Alors moi, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il faut être un peu plus ambitieux que ça. En revanche, c'est de se dire que quand on donne des leçons de morale, il faut être exemplaire. Ce n'est pas si compliqué que ça, d'utiliser l'argent public de façon irréprochable. Ça paraît quelque chose de complètement inatteignable. Il faudrait s'habituer à avoir régulièrement des feuilletons qui vont dans ce registre-là. Moi, je trouve qu'il y a un enjeu, encore une fois, entre la vie privée des hommes politiques. Quand Marlène Schiappa vient sur les plateaux pour dire « Moi, on a essayé de me prendre en photo pendant mes vacances, j'en ai marre de cette démocratie, de cette transparence. » On ne parle pas de la même chose. C'est-à-dire, respecter la vie privée des hommes ou des femmes politiques, c'est une chose importante et légitime. Être absolument exigeant sur l'usage de l'argent public, c'est même la base.
François de Rugy, hier, il disait « Il n'y a, au fond, plus de vie privée pour un homme politique. » Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Alexandre ?
C'est en partie vrai, mais encore une fois, il en est en partie responsable. Il a mis en scène sa vertu en disant qu'il était sobre, etc. Les hommes politiques utilisent les réseaux sociaux. Il y a une selfisation de la politique et ensuite ça se retourne contre eux. Maintenant, si on va totalement dans la logique de transparence, là où je peux rejoindre François de Rugy, c'est que les journalistes vont devoir faire la même chose. Effectivement, il y a le secret des sources, mais Mediapart pourrait faire preuve de transparence et nous dire pourquoi ils ont visé François de Rugy, quel a été c'est leur logique. On peut attendre ça aussi. Ouais. Je suis pas sûr que on doive aller jusqu'au bout et qu'on ça risque de nous mener très loin.
J'ai peur qu'il y ait une logique d'opportunité aussi. Après la question, après on pourrait aussi.
Pourquoi de Rugy?
Pourquoi de Rugy? Bah parce que je pense qu'ils ont eu des infos qui sont venues. Je pense pas qu'ils se sont mis en tête un jour de dire on va ouvrir.
Parce qu'au fond, les prédécesseurs, on imagine que les prédécesseurs de François de Rugy avaient à peu près le même genre de pratique.
Bien sûr, mais c'est pour ça que ça vient sanctionner plus la question de la monarchie républicaine et de les us et coutumes dans un certain nombre de palais de la République. Le mot est pas non plus complètement anodin. Un simple détail, un exemple, quand beaucoup de ministères ont, donc pour des raisons techniques et logistiques, ont déménagé, 90% des ministres sont restés dans les palais où il se passe plus grand chose. À l'hôtel de Brienne, Jean-Yves Le Drian, il est très bien. Juste à côté d'ici, il y a le ministère de la Défense. Donc voilà, cette idée qu'il s'accroche à des privilèges d'un autre âge, François de Rugy est sûrement la queue de comète d'un
mouvement beaucoup plus large. Le ministre de la Défense vous répondrait qu'il a aussi des besoins de diplomatie et qu'il faut aussi continuer à montrer la grandeur de la France.
Oui, bien sûr, la grandeur de la France, j'ai peur que parfois elle monte surtout la politesse de certains.
La monarchie républicaine, c'est important, moi ça me choque pas, mais là il y a un trop de décalage entre le manque d'efficacité des politiques, leur manque de puissance et justement la puissance de la part.
Et on en vient toujours à ça, s'ils étaient plus efficaces, peut-être serions-nous moins regardants. Merci Jonathan Boucher-Peterson et Alexandre Devecchio, vous débattez tout au long de la semaine. 7h58, dans un instant, la météo et le journal complet de 8h.